À Voix Nue, Amélie Perrault. Toute cette semaine, je reçois
Achille Mbembe, professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université du Witwatersrand à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Troisième épisode, le passé en partage. Bonsoir Achille Mbembe.
Bonsoir.
Je suis heureuse de vous retrouver pour ce troisième temps de notre rencontre. Hier et avant-hier, vous nous parliez des récits et des imaginaires au sein desquels vous avez grandi, à l'ombre des désillusions violentes du moment postcolonial au Cameroun. Ce pays, le Cameroun, vous l'avez quitté au début des années 1980. Vous êtes parti en France pendant plusieurs années, puis aux États-Unis, avant d'arriver en Afrique du Sud, où vous vivez toujours aujourd'hui. La France, les États-Unis, l'Afrique du Sud, trois pays où la violence et la mort érigées en système par l'esclavage et la colonisation agitent encore aujourd'hui les mémoires. Tout au long de votre travail et de l'écriture de vos livres, vous avez pensé, décrit la violence de ces systèmes d'oppression, un système fondé sur la mort, nous en parlions hier. Mais l'une des grandes originalités de votre travail, c'est que vous vous attachez aussi à penser le fait que ce passé, qu'on le veuille ou non, nous l'avons tous en partage. Dans la conclusion de votre livre le plus célèbre, De la postcolonie, vous écrivez même « On peut être porté à penser qu'un tel processus était autant arbitraire qu'unilatéral. C'est oublier que de ce manège, ni le colon ni le colonisé ne sortaient indemnes. C'est dans cette mesure que l'acte de coloniser fut tout autant un acte de convivialité qu'un acte de vénalité. » Cette idée, elle étonne, elle dérange même à première vue. Qu'est-ce que cette idée de rencontre peut bien vouloir dire quand l'une des deux parties a subi cette rencontre de façon aussi forte?
Oui, je pense que le processus peut toujours être décrit comme une rencontre. Par définition, les rencontres ne mettent pas nécessairement en relation des parties qui sont égales. En fait, la plupart des rencontres mettent ensemble des parties à la fois hétérogènes et asymétriques. Et du coup, le défi de toute rencontre, c'est justement de sortir de cette position d'asymétrie et de forger quelque chose qui relève de la réciprocité et de la mutualité. Et le colonialisme en tant que tel n'a pas échappé à cette logique. Ses résultats sont ce qu'ils ont été, mais comme vous le disiez dans la remarque que vous venez de lire, on ne peut pas effacer cette histoire. Évidemment, avoir un passé en commun ne signifie pas nécessairement avoir un futur en commun. Le futur en commun, ou on l'invente ou on ne l'invente pas. Et donc, si on l'invente, cela veut dire que quelque part, il y a une marge, une capacité d'action sur le présent qui, bien que tenant compte du passé, ne dépend pas entièrement du passé. Et je pense que c'est à se libérer quelque part du passé tout en reconnaissant la dette envers lui. C'est en cela que réside cette capacité de forger les chemins d'avenir.
Dans cette citation de la postcolonie que je lisais, vous dites donc de la colonisation qu'elle fut un acte de vénalité, on comprend pourquoi. Un acte de convivialité, c'est plus difficile à comprendre. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme?
Ça veut dire colon et colonisé. En fait, ont dû partager beaucoup plus qu'ils ne veulent bien l'admettre. Ils ont vécu dans les mêmes espaces tout en prétextant vivre dans des couloirs séparés. Toute domination, au fond, pour réussir, a besoin de lier ensemble dominant et dominé dans une série de croyances partagées. Il n'y a aucune domination qui soit foncièrement unilatérale. Elle ne réussit pas. Pour réussir, elle a besoin d'être intériorisée et d'être partagée. Mais le fait de dire « elle a besoin d'être partagée » ne veut pas dire justifier ce qui s'est passé. Ça veut dire reconnaître la complexité de ce à quoi on a à faire face afin d'être à même de penser sérieusement la déliaison. Voilà ce que je veux dire par là.
Est-ce que c'est une idée qui vous distingue de ce qu'on appelle les théories postcoloniales ? C'est à propos de la postcolonie, vous dites que le titre du livre indique ce à quoi le livre tourne le dos.
Ah oui, alors là, c'est amusant parce que beaucoup de... J'imagine il y a beaucoup de paresse dans le... Il faut mettre les gens dans une boîte. Moi, je ne me revendique pas du tout du courant dit postcolonial ou décolonial. En fait... de la postcolonie, je le dis clairement dans l'introduction. Je le dis dans le sens où une grande partie des discours postcoloniaux ou décoloniaux s'intéressent, pour faire court, à ce que l'autre m'a fait. Et donc, on récite le chapelet des atrocités, des responsabilités issues d'une rencontre, une fois de plus, asymétrique. Comme nous n'avons cessé de le dire depuis le début, moi, dans de la postcolonie, je mets au centre de la réflexion la question « Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ?» C'est-à-dire la question de soi en tant que souverain. Et par conséquent, souverain, ayant à répondre de lui-même, ayant à être jugé par lui-même et devant tirer lui-même les conséquences de ce jugement. Et c'est là la différence avec, disons, les approches décoloniales ou postcoloniales.
Mais Achille Mbembe, aujourd'hui, alors qu'on voit dans nos sociétés à quel point les structures psychiques qui ont permis la colonisation sont encore parfois d'actualité. Est-ce que ce que vous décriviez tout à l'heure comme étant ce que l'autre m'a fait, est-ce qu'il n'y a pas quand même la nécessité d'une reconnaissance pour permettre cet avenir en commun auquel vous pensez ?
Oui, absolument. Mais ce que je disais, c'est que ce n'est pas vraiment l'objet de mon travail. Ce qui ne veut pas dire que je récuse les efforts accomplis par ceux qui choisissent de mettre l'accent sur cette thématique. Mais je suis en train juste de dire que ce n'est pas ce que je fais. Et que par conséquent, je ne fais pas partie de cette famille de pensée. J'essaie de penser autre chose. J'essaie d'aller au-delà des problématiques de l'identité et de la différence. Ou de la différence et de l'altérité. Le fond philosophique des théories dites postcoloniales et décoloniales, c'est celui-là. C'est le fond philosophique sorti de la pensée française, en particulier des années d'après-guerre, lorsque la question de soi et de l'autre, la question de l'identité et de la différence, de la différence et de l'altérité, domine la réflexion sur, disons, qui est-on dans le monde. C'est ça qui a donné lieu à l'émergence de disciplines comme l'anthropologie, la discipline de l'autre par excellence. Moi, mon inflexion, disons le point d'inflexion, porte sur le semblable, la possibilité du semblable, de l'en commun, et maintenant, évidemment, de ce que j'appelle la communauté terrestre, l'assemblée des vivants, laquelle inclut non seulement les êtres humains, mais l'ensemble, si vous voulez, pour rester dans le registre théologique utilisé lors de notre dernière conversation, l'ensemble de la création. Ce n'est pas du tout le propos des théories postcoloniales.
Achille Mbembe, vous êtes vous-même arrivé en France au début des années 80. Vous, quel souvenir vous gardez de cette période-là? Est-ce que c'est aussi à cette période que vous vous êtes interrogé sur ces questions d'identité telles qu'on en parle en France?
Non, non, pas du tout. En fait, moi, lorsque j'ai arrivé ici, je venais du Cameroun. On a fait, essayé de faire un peu le... Ils ont tracé le chemin. Moi, je n'avais jamais imaginé que je viendrais ici. Moi, je voulais vivre et travailler dans mon pays. Lorsque je suis arrivé ici, à l'époque, l'idée était qu'un jour, je rentrerai chez moi. Parce que les gens venaient ici étudier et à l'époque, l'idée était qu'on allait rentrer chez nous et construire un pays. Moi, j'ai grandi au Cameroun à l'époque où on prenait au sérieux l'idée de construire son propre pays. Alors, au fil des choses, j'ai publié en 81 les écrits de Oum, qui ont été censurés tout de suite. Mais cela signait mon expulsion de mon pays, que je n'ai pas pu visiter pendant les 10 années qui ont suivi. Alors, si vous êtes banni de votre pays, il faut bien que vous trouviez un autre point de chute. Et je l'ai trouvé aux États-Unis, sans l'avoir cherché. Un soir, quelqu'un qui avait lu mes travaux m'a demandé « Mais alors, après votre thèse, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et puis, dans la foulée, avant même que je ne réponde, il a dit « Mais je pense que vous devez aller aux États-Unis. Comment on va aux États-Unis ?» Moi, je n'avais jamais pensé aux États-Unis. Les États-Unis n'appartenaient pas à mon univers. Et puis, je me suis retrouvé à New York, comme ça. Et donc, j'ai travaillé là-bas pendant 7 ans. À un moment donné, il fallait décider si oui ou non je devais quoi que ce soit au continent africain. Si je devais rien au continent, alors je étais en position de poursuivre une carrière universitaire ad vitam aeternam aux États-Unis. Mais dans ce cas, il fallait arrêter de parler de l'Afrique et travailler, je sais pas, sur l'Amérique noire... ou autre. Et donc, je voulais quand même rentrer en Afrique. Et donc, je suis allé au Sénégal. Donc, la question du passant dont on parlait il y a quelques jours, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire, peut-être pas un vagabond, mais enfin, par la force des choses, on est disponible. Une espèce de disponibilité à se laisser porter par... une histoire en train de se faire par des appels venus d'horizons inattendus.
Vous parlez, Achille Mbembe, de ces lieux par lesquels vous êtes passé, notamment des deux premiers, la France et les États-Unis. Ce livre dont nous parlions, De la postcolonie, il est presque instantanément devenu un classique aux États-Unis. En France, sa réception a pris beaucoup plus de temps. Comment est-ce que vous le comprenez ?
Mais alors, il a écrit ce livre d'une manière qui, à l'époque, ne correspondait à aucun des canons de l'écriture académique. Hein. Alors, à l'époque, les disciplines étaient, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais très cloisonnées. Alors, moi, j'ai étudié l'histoire et les sciences politiques. Ce n'était pas véritablement un livre d'histoire. Mais ce n'était pas non plus un livre de sciences politiques dans le sens... traditionnel du terme. Et donc, à l'époque, c'était un livre orphelin parce que il n'y avait aucune famille disposée à lui donner un nom et à en faire un membre de la communauté. Alors qu'aux États-Unis, dans les années 80-90, il y avait une période d'ébullition intellectuelle avec de nouveaux voyages de la pensée, une pensée qui sortait des vieux centres occidentaux et qui allait à la rencontre de ce qui naissait ou émergeait dans ce que l'on appelle aujourd'hui les Suds globaux. Et là, le livre a été porté par justement cette ouverture de l'Académie américaine au monde, dans la mesure où, dans les meilleures universités américaines de l'époque, on trouvait des gens qui venaient de partout. Alors ça, c'est l'interprétation généreuse. Le reste, je n'en sais rien.
Nous parlons aujourd'hui, Achille Membe, de cette question du passé en partage. Puisque nous sommes à Paris et que nous nous rencontrons en France, j'avais envie de vous interroger sur ces questions du point de vue français. Vous êtes très critique à l'égard de l'universalisme à la française, que vous appelez l'universalisme abstrait. Est-ce que pour vous, cet universalisme, c'est une façon de ne pas regarder le passé ?
Ah, et on pourrait reprocher plein de choses à l'universalisme, à la française. Mais moi, disons que ma réflexion ne porte pas vraiment sur l'universalisme en tant que tel, ni sur ses limites, ni sur ses possibilités. Je m'interroge sur, disons, la sorte de monde commun, si vous voulez, qui pourrait effectivement surgir de la reconnaissance non de nos différences, mais de nos similarités, de la figure du semblable et de la notion d'en commun. Or, l'en commun n'est pas seulement l'en commun humain, mais c'est l'en commun justement dans le sens où on utilisait ce terme il y a quelques minutes, l'ensemble de la création. Dans une vision élargie à la fois de l'écologie et de la cosmologie. Et donc, dans cette perspective écologique et cosmologique, la notion d'universel, elle est, comme ils disent en anglais, un peu « irrelevant », c'est-à-dire qu'elle ne nous mène pas très loin. Je préfère parler de l'émergence d'une conscience planétaire qui me semble correspondre davantage aux défis réels de notre temps.
Cette conscience planétaire, vous en parlez d'un point de vue écologique, vous le dites, vous en parlez plutôt dans vos travaux d'un point de vue économique, en parlant notamment des politiques économiques libérales. Vous développez dans Critique de la raison nègre l'idée selon laquelle même cette figure du nègre aujourd'hui ne concernerait plus uniquement les personnes à la peau noire, mais que notre système économique fabriquerait de nouveaux nègres, de nouvelles personnes qui subiraient ce système économique. C'est aussi une façon de penser le commun, le fait d'étendre cette oppression.
C'est une façon de reconnaître le fait que la logique capitaliste, sous sa forme néolibérale, nous aura conduit à une étape de l'histoire humaine et de l'histoire de la Terre. Une étape au cours de laquelle c'est désormais le vivant lui-même qui est l'objet d'un arraisonnement par les forces du calcul, par les forces du profit et par les forces de l'extraction. À un moment également d'escalade technologique qui accélère les mécanismes de brutalisation non seulement des corps, des nerfs, mais de tous les flux de la vie. Ce sont eux aujourd'hui, ces flux de la vie, qui sont la cible du capital, sous sa forme en particulier financière, dans le contexte de déploiement d'une logique algorithmique ou digitale, de plus en plus abstraite et de plus en plus viscéral. Et donc, le contexte a changé. On n'est plus vraiment à l'époque de la traite des nègres en tant que tel. Mais le fait nègre, dans sa dimension principielle, qui est quoi ? C'est-à-dire l'effort qui consiste à transformer tout en objet, mais pas seulement en objet, de tout transformer en marchandise calculable, appropriable, et ainsi de suite, cette logique, elle s'étend à l'ensemble de l'étang, si vous voulez. Et donc, le texte que vous citez, il est rendu dans un langage plus ou moins métaphorique, mais c'est pour justement nous aider à comprendre l'ampleur de la révolution qui est en cours et qui menace au fond les possibilités même de vie sur cette planète. Et exige en retour donc le développement d'une éthique qui viserait par contre à prendre soin, à réparer, à reconnaître des dettes, à essayer de les rembourser, même lorsqu'on sait que, par définition, elles sont irremboursables.
Et alors justement, cette question de la reconnaissance de la dette, puisque nous parlions tout à l'heure de cette question de la mémoire, aujourd'hui, quelle forme peut prendre le fait de reconnaître une dette ?
À plusieurs formes. À commencer par la vérité. C'est-à-dire la reconnaissance du fait que quelque chose s'est passé. La sortie du déni. Moi, ce qui me frappe, lorsqu'on parle de l'Occident en général, c'est la difficulté en Occident, pour l'Occident, de faire face à la vérité. L'Occident a un terrible problème avec la vérité. Notamment lorsque il s'agit d'événements qui ont eu lieu lors de sa rencontre avec les autres mondes. Et donc, la reconnaissance des dettes commence par une véritable politique de la vérité.
Est-ce qu'il y a des événements en particulier auxquels vous pensez en disant ça ? Des événements que nous ne regardons pas encore en face ?
Mais alors, mon ami Felwyn Sarr et Bénédicte Savoie ont rendu, il y a quelques années, un rapport au président de la République concernant la restitution des objets d'art africains. Il se trouve que le gros de la production, de la création imaginaire, artistique africaine, se trouve hors d'Afrique. Musée du Quai Branly, musée de Tervuren en Belgique, le Humboldt Forum en Allemagne, je ne parle même pas du musée du Latran au Vatican. Alors comment se fait-il que le gros de cette création se trouve hors d'Afrique ? Comment est-ce que c'est arrivé là ? Pendant très longtemps, évidemment, on a nié les conditions dans lesquelles est-ce que ces objets se sont retrouvés là. D'où la vérité, c'est de reconnaître telle pièce. Comment est-ce que c'est arrivé ici ? Librement ou non. Et donc voilà un exemple très concret, mais il y en a plusieurs autres.
Aujourd'hui, Achille Mbembe, vous vivez en Afrique du Sud, c'est le cas depuis 20 ans, puisque nous parlons ce soir du passé en partage. J'avais envie de vous demander, cette Afrique du Sud, à un moment, vous y avez vu un possible laboratoire pour l'avenir. Et c'est vrai que quand on pense à l'Afrique du Sud, on pense à Nelson Mandela, à la nation arc-en-ciel. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les choses semblent plus compliquées. Il y a en tout cas des mouvements politiques qui sont très critique de la poursuite en réalité des inégalités. Puisqu'on parle de la reconnaissance, est-ce que la question de la justice, y compris de la justice économique, n'est pas aussi un élément indissociable de la construction d'un futur en commun ?
Mais bien sûr, il faut réparer. Il faut réparer ce que l'on a endommagé. On n'échappera pas à la réparation.
Qu'est-ce que ça veut dire, la réparation ?
Mais la réparation, dans le cas sud-africain, ça veut dire que pendant des siècles, c'est-à-dire en tout cas à partir de la fin du 19e siècle, s'est imposé en Afrique du Sud un modèle d'exploitation des richesses qui reposait sur la spoliation des Noirs et l'enrichissement équivalent des Blancs. Pas tous les blancs, bien entendu, des capitalistes, des industriels, des classes moyennes, et ainsi de suite. Vous exploitez une partie de la population qui contribue à la création des richesses au profit d'une autre partie, de façon transgénérationnelle. Et puis un beau jour, bon, d'un point de vue juridique, on dit c'est fini. Mais ça ne se termine pas comme ça. Il y a eu des dégâts qui ont été causés. Il faut s'en occuper. On ne s'en est pas occupé, il n'y a pas de réforme agraire. Les taux de croissance de l'économie sont minimes et donc il n'y a pas d'emploi. Et de toute façon, le passage d'une économie d'extraction à une économie des services fait que même les métiers qui hier permettaient d'absorber la main-d'œuvre non qualifiée, ces métiers n'existent plus. Et donc, les moyens d'existence des gens sont menacés. Lorsqu'on dit réparer, cela veut dire prendre en compte tout cela, y compris les blessures de toutes sortes qui ont résulté de la politique de l'apartheid. Ça n'a pas été fait, et donc aujourd'hui, effectivement, beaucoup se disent « mais c'est quoi cette dispensation ?» On n'en veut pas, et donc le rêve de Mandela et d'autres, évidemment, il est remis en question.
Est-ce que aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est aussi certaines personnes qui se disent que justement, le fait de penser en commun n'a pas suffi ? Il y a une sorte de désir de radicalité, notamment dans la jeunesse sud-africaine. Vous, peut-être, oui. C'est des conversations que vous avez avec vos étudiants, par exemple.
Mais tout le temps. Il y a un désir de radicalisation partout. Hein. Pas seulement en Afrique du Sud, mais en Afrique du Sud en particulier, parce que bon, ils ont une tradition assez forte de lutte et de revendication. Et parce que l'Afrique du Sud est quand même un des pays les plus complexes du continent, c'est le seul où il y a eu une révolution industrielle, c'est-à-dire un processus d'expropriation des gens, de prolétarisation, de construction d'un capitalisme internationalisé, avec tout ce que cela comporte d'institutions bancaires, judiciaires, assurances, émergence de syndicats, et ainsi de suite. Donc, c'est quand même assez sophistiqué. Mais cette radicalisation, elle est là. Et elle émerge en très grande partie des gens qui ont tout perdu ou qui n'ont rien. Mais on ne peut pas faire communauté là où il y a des gens qui n'ont rien. C'est pas possible. La communauté, c'est la capacité de faire place à tous et à chacun. Or, ce qui a été bâti en Afrique du Sud depuis 1994 ne répond pas entièrement à ce désir de communauté et par conséquent suscite des réponses de plus en plus violentes.
Cette question de la communauté, nous continuerons à en parler demain à Chimembe en parlant notamment de la question de la circulation. Merci, bonne soirée à vous.
Merci beaucoup.
C'était À voix nue avec Achille Membe. Réalisation Marie Placet, prise de son Mathieu Leroux, chargé de programme Daphné Abgrel, coordination Florian Delorme. Une série d'Amélie Perrault à réécouter et podcaster sur franceculture.fr et l'application Radio France.